Épître aux Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie, accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir, d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé, et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se fassent tous genoux des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant, en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde présentant la parole de vie. Pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Mais si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'Évangile comme un enfant sert son père. J'espère donc l'envoyer incessamment quand j'aurai vu la tournure que prendront mes affaires. Mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai vous voir bientôt. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, mais votre envoyé et ministre pour mes besoins. Car il pensait à vous tous avec une vive affection. Et il était fort abattu parce que vous aviez entendu dire qu'il était malade. En effet, il a été malade, fort près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie, et que moi j'ai moins de tristesse. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie, et honorez de tels hommes, car pour l'œuvre il a été proche de la mort, ayant exposé sa vie, afin de compléter ce qui manquait à votre service envers moi.
Prenons donc la suite de ce qui nous avait occupé récemment lors de ces conférences de la Pentecôte, auxquelles un grand nombre de ceux qui se trouvent ici se trouvaient. Nous étions arrivés en réalité au verset 5 de ce chapitre 2, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Le chapitre 1er de cet épître nous a montré, entre autres choses, comment en Christ, dans les relations qui existaient entre Paul prisonnier et les Philippiens, auquel il était si attaché et qui le lui rendait bien, comment donc dans le Christ Paul avait trouvé précisément dans les circonstances éprouvantes dans lesquelles il se trouvait, mais qui était arrivé pour l'avancement de l'Évangile, cet Évangile auquel les Philippiens se trouvaient si étroitement associés en esprit, en prière, avec leur cher apôtre. Et il avait trouvé donc dans ces Philippiens ce que, au début du chapitre 2, il peut exprimer, trouver cela en Christ et par l'Esprit de Christ, mais consolation en Christ, soulagement d'amour, communion de l'Esprit, tendresse et compassion, quelque tendresse et quelque compassion, il avait trouvé tout cela. Et tous les efforts de l'ennemi pour attrister l'apôtre et ceux qui l'aimaient se trouvaient déjoués. Précisément parce que l'évangile auquel ils tenaient tous recevait un avancement nouveau du fait même des tribulations de Christ. Mais avec cela, il exprimait ce désir aux Philippiens, quelque chose de plus. Sa joie n'était pas accomplie. Il y avait beaucoup de joie en lui, dans la pensée des liens si doux qui le rattachaient aux Philippiens et à tout ce qu'il lui témoignait. Il pouvait les exhorter avec liberté et confiance. Mais, et il pouvait parler tout au long de cet épître de joie. Réjouissez-vous, trouvons-nous dans les chapitres suivants. Et lui-même parle d'être joyeux, nous avons lu cela. Mais ce n'était pas une joie parfaite. Ce n'était pas une joie accomplie. Rendez ma joie accomplie. Et en quoi? Eh bien, en réalisant ce qu'il leur souhaitait, ce à quoi il les exhortait, dans le chapitre premier encore, à partir du verset 27, c'est-à-dire une conduite digne de l'Évangile. L'Évangile qui tient une si grande place dans cet épître, et particulièrement dans le premier chapitre. Eh bien, seulement, leur disait-il, conduisez-vous d'une manière digne de cet Évangile, de l'Évangile du Christ. Afin, dit-il, que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile et ne tentant rien épouvanté par les adversaires. Ensemble, d'une même âme, dans un seul et même esprit. C'est donc qu'il y avait quelques sujets de crainte et même de peine pour l'apôtre dans la pensée, dans la constatation que des fissures se glissaient parmi ces chers Philippiens et qui n'étaient pas véritablement unis comme ils auraient dû l'être. Rien de grave, semble-t-il, malgré les supplications qu'il devra adresser au chapitre 4, à Évodie, à Saint-Ige, à d'autres, mais il est pressé de leur dire, mais soyez bien un même esprit, soyez bien une même âme, manifestez, rendez-en témoignage. Manifester cette unité de l'esprit, cette même unité de l'esprit qu'il enjoint aux Éphésiens de garder. Montrez cette même âme dans votre combat pour l'Évangile. Et alors, ce qui empêchait ainsi la joie de l'apôtre d'être accompli aura disparu. Il est ce sera là marcher d'une manière digne de l'Évangile. Entre autres choses, bien sûr, mais une des manifestations les plus marquantes du témoignage et du travail d'évangélisation que nous avons à poursuivre ensemble ici-bas, laissés pour cela sur cette terre, avec Jésus glorifié dans le ciel. Et alors le secret pour tout cela, le secret pour l'accomplissement des exhortations du verset 2 ou verset 5 ce que nous avons ici au chapitre 2, c'est, eh bien, une humilité dont le modèle est donné par Christ. L'humilité qui fait que, bien loin de se porter en vie l'un à l'autre, ou de laisser des sentiments charnels se mêler à l'amour dans l'esprit, il y ait les uns vis-à-vis des autres cette attitude d'humilité, parce que un sentiment d'humilité profonde dans chaque cœur, que dans l'humilité l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. C'est cela qui exclut l'esprit de parti et la vaine gloire. Et nous retrouvons ici quelque chose qui nous a occupé tout récemment, alors, avec le dernier chapitre de l'Épître à Tite. Et le secret, c'est de considérer Christ lui-même. Christ, le parfait modèle. Et alors, à partir du verset 5, qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Remarquons bien, soulignons bien ce « aussi » dans le Christ Jésus. Exhortez à avoir une même âme, un même esprit. C'est être exhorté à avoir l'esprit et par conséquent la manière de vivre, d'agir dans ce monde de Christ lui-même, de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ dans cette humilité, dans cet abaissement qui est un abaissement volontaire, un abaissement divin. Un abaissement divin. L'abaissement du Dieu qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous. L'orgueil est le principe dominant dans notre être naturel, comme enfant d'Adam. C'est le principe dominant, ce qui a été insufflé à Adam et qui caractérise toute sa race. Le désir de monter, de s'élever. Jusqu'où haut, jusqu'à Dieu, vous serez comme des dieux. C'est ce que l'Antichrist croira, et ce que d'autres croiront avec lui, avoir atteint. Mais quand il se présentera et s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu. Mais tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est l'orgueil qui a été ce principe dominant. Le principe de n'avoir personne au-dessus de soi. Voilà au fond ce qui entraîne, hélas, l'esprit de parti, la vaine gloire, etc. N'avoir personne au-dessus de soi. On n'accepte pas cela. et on veut s'élever jusqu'à n'avoir effectivement personne au-dessus de soi. Et c'est là, encore une fois, ce que l'ennemi a placé dans le cœur d'Adam et de tous ceux qui descendent de lui, l'orgueil. Et alors, regardant comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, l'homme progressant, l'homme s'élevant, l'homme qui acquiert des capacités nouvelles, qui prétend s'améliorer lui-même, ou qui va toujours plus loin dans ses désirs, ses convoitises, ce qui est considéré comme l'ascension de l'humanité s'élevant au-dessus de l'animalité. C'est là le principe de tous les conflits, bien sûr, tous les malheurs, de toutes les guerres, de tout ce qui caractérise, tout ce qui marque l'histoire de l'homme, mais c'est le principe fondamental dans le cœur humain détaché de Dieu. S'élever, monter toujours davantage. En contraste, saisissant, présenté ici en ces quelques versets que l'on hésite à commenter d'une manière ou de l'autre, puisse l'Esprit de Dieu nous tenir et nous garder dans une sainte crainte à cet égard, puisqu'il s'agit de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette personne dans ce qu'elle a de plus mystérieux, de plus impossible à comprendre pour nous, l'union de cette divinité invariable et qui est la sienne, et de cette humanité humble et toujours plus humble. Pour Adam et sa race, toujours monter. Pour Christ, toujours descendre. Descendre jusqu'où? Jusqu'où le péché de l'homme a obligé à descendre l'homme sans péché. Descendre. Et pourtant, il était au-dessus de tous. Au-dessus de tous. Il n'y a pas d'objet à ravir pour lui. Il n'y a pas d'objet à ravir. Il est Dieu. Il est en forme de Dieu. Il demeure en forme de Dieu. Pensons pas qu'il ait abandonné jamais la forme de Dieu. Mais qui ici serait capable de définir ce que c'est que la forme de Dieu ? Et Dieu, sous quelque aspect, sous quelque manifestation qu'il se présente, est toujours le même, selon l'expression qui revient si souvent dans l'Ancien Testament. L'Éternel, le « Je suis », celui qui est au-dessus de tous. Et Jésus était cela. Jésus est en forme de Dieu. Il est dit étant en forme de Dieu. Le terme étant ne rendant que faiblement la portée, la force du terme original qui signifie aussi bien. Et qui signifie en même temps subsistant, existant, continuant à exister. Il n'a pas cessé d'être en forme de Dieu, comme on pourrait le penser, comme des hommes ont pu le penser, hélas. Et quand il est dit qu'il s'est anéanti lui-même, cela, évidemment, ne veut pas dire qu'il a cessé d'être Dieu. Il a toujours été. Mais il a pris la forme d'esclave. Celui qui n'avait pas à obéir, celui qui avait tout créé, celui qui est par conséquent au-dessus de tous, a consenti, mieux que cela, a voulu, par amour, et dans la communion avec Dieu le Père, et le Fils a fait cela, prendre la forme d'esclave, c'est-à-dire mettre sa gloire à obéir. Mettre sa gloire à obéir. Et ici-bas, comme un homme, comme étant vu comme esclave, il s'est fait selon la volonté divine elle-même. Il s'est fait le serviteur, l'esclave de l'homme, l'esclave des hommes, étant lui-même l'exécuteur de la volonté de Dieu et sa volonté propre répondant à la volonté divine. C'est là le mystère pour nous, je le répète, de sa personne. Et nous ne saurions trop à la fois le méditer, mais demeurer les pieds déchaussés sur ce terrain-là. Esclave de l'homme qui lui-même était l'esclave de Satan. Et je n'ai pas besoin de dire que Jésus n'a été en aucune manière l'esclave de Satan. Il a vaincu lorsque Satan a cherché à se l'annexer, à se l'assujettir. C'est la victoire de la tentation au désert. Et il est descendu. Et étant vu comme un homme, en figure comme un homme, voilà la forme que Dieu a prise. Voilà la forme sous laquelle la gloire de Dieu s'est trouvée cachée aux yeux des hommes, dévoilée à la croix, à la foi. Descendre. Jusqu'à la mort, et à la mort la plus ignominieuse, la mort de la croix. Voilà ce qui est présenté par l'apôtre comme le modèle de l'humiliation, modèle de l'humilité en Christ, pour nous d'une humiliation nécessaire, dans la reconnaissance de ses droits, comme Dieu même les a reconnus, et comme Dieu même les a glorifiés, en élevant à sa droite, glorifiant dans le ciel, établissant comme Seigneur, Seigneur de tous, celui qui avait voulu être l'esclave de tous.
Christ est la grande leçon du chrétien. L'Épître aux Éphésiens utilise cette expression, chapitre 4, verset 20. Vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Une expression très forte qui nous montre que nous sommes à l'école, que cette école comporte pour nous croyants une,
une leçon et que cette leçon, c'est Christ. L'objet de Dieu, c'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils, Romains 8. Conforme à l'image de son Fils, conforme moralement avant de l'être, en gloire, une conformité morale qui seule peut être agréable à Dieu en traversant ce monde. Ressembler à Christ, l'occasion nous en est donnée ici sur ce point-là précis de l'humilité, en contraste total, comme ça vient d'être souligné, avec le premier Adam. Le Seigneur, dans le chapitre 14 de Luc, donne une leçon à des personnes qui avaient été conviées avec lui dans la maison d'un pharisien. Et il vaut la peine de lire ces quelques versets présentés sous forme de parabole par le Seigneur. Versets 10 et 11 du chapitre 14 de Luc. Seulement la fin de la parabole. Quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, ami, monte plus haut, alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'accent est mis sur le s'élève, s'élève soi-même, et sera, c'est par quelqu'un d'autre. Ici, c'est précisément ce qui caractérise le Seigneur, c'est qu'il s'est abaissé lui-même. Aussi est-ce Dieu qui l'élèvera. Abaissement volontaire, précédé, nous le savons, de l'anéantissement. Dieu devenant homme. Contraste total, nécessaire à souligner et à confirmer sa divinité.
Quand le Seigneur se présente lui-même comme exemple, c'est sous ce caractère-là. Matthieu 11, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Jean 13. Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez. Il avait pris la place qui choquait Pierre dans une position d'un tel abaissement aux pieds de ses disciples, en lavant les pieds, qu'ainsi vous fassiez.
Abandonner sa divinité, il me permet d'insister là-dessus, il n'a jamais abandonné sa divinité. Mais Dieu manifesté en chair, il venait en grâce, et il venait comme serviteur volontaire, mais de sorte que il n'a pas manifesté sa forme de Dieu par un déploiement de gloire qui aurait été quelque chose de terrible pour nous, terrible pour des pécheurs, terrible pour ceux qui dans leur état naturel, ne pouvaient qu'être en contradiction avec lui. Et lui qui n'a cessé d'être le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance, n'a pu être connu comme tel que par la foi. Car il s'est présenté, et cela a été une gloire nouvelle pour lui, qu'il a acquise, et ici-bas, il s'est présenté comme l'esclave, sous forme d'esclave. Et cette forme cachée, si on peut parler ainsi, cette divinité et cette forme immuable, éternelle, et du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu de lumière, le Dieu d'amour, et Dieu dans la plénitude de son être. Ne pas perdre de vue l'expression des Colossiens, n'est-ce pas ? En lui est toute la plénitude. Et au chapitre 3, la plénitude de la divinité. Chapitre 2, la plénitude de la déité, c'est plus habiter en lui corporellement. Corporellement. Et elle habite toujours. Habite en lui, habite toute la plénitude de la déité corporellement. Verset 9. Chapitre 2 des Colossiens. Habité en lui et n'a pas cessé de l'être. De même que lui, ayant pris cette forme de serviteur, l'a gardée. Et c'est sa gloire. Et s'il est établi Seigneur dans le ciel, il reste le serviteur parfait, le serviteur à toujours dans le ciel. De quelque côté que nous considérions cette personne, tout est motif d'adoration pour nous.
Si notre esprit d'IJND était capable de saisir, de comprendre, d'enfermer dans ses limites ce saint mystère, nous ne serions plus des hommes. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Le saint mystère, l'union de la divinité toute-puissante à l'humanité dépendante. L'arche en est un type bien précieux, faite de bois de sittim. Le bois qui pousse hors des rocailles, mais l'arche de bois de sittim recouverte d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Et sur l'arche, il y avait le propitiatoire d'or. Dieu annonçant ainsi pour la foi, écrivant déjà ce saint mystère, de ce qu'il serait lorsqu'il l'enverrait, retenons bien l'expression, en ressemblance de chair de péché. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la manifestation pleine et entière de Dieu lui-même, la plénitude, nous venons de l'entendre, de la déité habitant en lui corporellement. Elle a habité en lui lorsqu'il était un homme ici-bas, et elle habite encore maintenant en lui, homme glorifié. N'ayant pas cessé d'être un homme, sans jamais avoir cessé d'être Dieu. Personne ne pouvait regarder dans l'arche. Dieu annonçait ce saint mystère de ce qu'il serait dans sa personne et de l'œuvre qu'il allait accomplir, montré, annoncé dans le propitiatoire qui recouvrait l'arche. De l'homme, il est dit, qu'il a été fait à la ressemblance de Dieu. Et Jacques nous confirme dans son épître cette vérité parlant de l'homme fait à la ressemblance de Dieu. Tandis que lui était l'image du Dieu invisible. Mais notre frère vient de le rappeler, selon le propos de Dieu, cet homme tombé, cet homme déchu, en vertu de la perfection de l'œuvre accomplie, de celui dont l'Esprit de Dieu souligne avec tant de force la dignité, la grandeur de sa personne, ce qui donne toute la valeur à l'œuvre accomplie à la gloire de Dieu. En vertu de cette œuvre à laquelle nous avons part, selon le propos de Dieu, Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Comme il est, tels nous sommes dans la pensée de Dieu. Quel saint et adorable mystère, quelle grâce que celle de Dieu, nous prendre là où nous étions, si bas tombés, et nous élever si haut, de telle manière qu'il sera à tout jamais premier-né au milieu de plusieurs frères. N'ayant pas honte de dire de nous, ce sont mes frères. Sans que jamais personne n'ait cette liberté, et ne serait-il pas inconvenant, comme on l'entend quelquefois dans certains chants, dans certaines poésies de la chrétienté, de l'appeler notre frère. Jamais l'Esprit de Dieu ne parle de cette manière. Celui-là me glorifiera. Et le choix des expressions de l'Esprit de Dieu pour nous parler de lui ne manque pas de nous impressionner. Dieu sur toute chose bénit éternellement. Mais Dieu manifesté en chair, ceci en sera le signe pour vous. Le mystère que nous adorons sans pouvoir comprendre, petit enfant, emmailloté, couché dans une crèche, s'est abaissé, s'est anéanti lui-même. Quelqu'un m'a dit, quitter la position dans laquelle Dieu nous a établis, pour nous c'est un péché. Pour lui, c'est une gloire, d'une excellence devant laquelle nous adorons. Dieu sur toute chose bénit éternellement, s'anéantissant lui-même, s'abaissant lui-même. Non. La plénitude de cette gloire qui le remplissait, plénitude divine, notre frère vient de rappeler ce passage de l'Épître aux Hébreux, resplendissement de la gloire de Dieu, empreinte de sa substance, qui pourrait expliquer des expressions d'une telle densité dans leur brièveté. L'Esprit de Dieu choisit des mots dans notre langue, mais les choisit de telle manière qu'il place devant nous l'inscrutable mystère. S'est abaissé lui-même, s'est anéanti lui-même, et a fait, Hébreux 1 cité il y a un instant, il a fait par lui-même la purification de tous nos péchés.
La question que nous avons ici, nous ne saurions assez les peser à la lumière de celles qui viennent de nous être rappelées. Qui s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, le vrai serviteur, l'esclave. Les anges sont des serviteurs, et les anges qui ne sont pas déchus sont des serviteurs fidèles qui entourent la majesté divine. Mais Dieu ne les a pas appelés à s'abaisser. Au contraire, Christ s'est abaissé. Il est devenu un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort. Et alors, on leur compte, prenant la forme d'esclave, la première chose qui est dite après l'anéantissement, c'est-à-dire la gloire voilée sous une autre forme. Cette forme d'esclave aurait pu être quelque chose de visible aux yeux des hommes, mais sans le caractère de ce que nous trouvons immédiatement après. À la ressemblance des hommes. À la ressemblance des hommes. En ressemblance de chair de péché, cela nous a été rappelé. En ressemblance. Mais des hommes tels qu'ils ont, le péché les a faits. À la ressemblance. À la ressemblance. L'aspect extérieur. La manière d'être, de vivre, tout ce qui est le propre de l'existence ici-bas, mais sans péché. Adam a été fait à la ressemblance de Dieu, et nous voyons, nous savons ce qu'il a fait de cette ressemblance. Christ s'est fait, a été fait, a été fait. Il a été fait ce qu'il n'avait jamais été fait. Il est devenu ce qu'il n'était pas. Et on l'a vu à la ressemblance des hommes. Des hommes pécheurs, des hommes coupables, mais lui au milieu d'eux sans péché. C'est bien remarquable, n'est-ce pas? Il a pris la forme d'esclave. Il a été fait, ou il est devenu, à la ressemblance des hommes. Il a été trouvé en figure comme un homme. Et comme tel, alors il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Lui seul, et pouvait offrir à Dieu dans sa vie, dans son existence, dans les jours de sa chair, et ensuite dans sa mort volontaire, je laisse ma vie de moi-même, lui seul pouvait offrir à Dieu cette chose unique, la personne d'un homme sans péché.
Puis, insistera J.N.D., présente trois caractères, est présenté sous trois caractères dans l'Écriture. Il y a d'abord la vie d'Adam dans l'innocence, perdue, que nul ne peut recouvrer. Et ensuite, la part de tous les hommes, tous les descendants d'Adam, la vie déchue, marquée par ce principe du péché en nous. Enfanté, conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité, c'est la part de tous. Tous ont péché. Et la mort a passé à tous les hommes parce que tous ont péché, tous sont caractérisé par cette vie déchue. Mais au milieu de cette vie déchue, partagée, sort de tous les hommes, lui vient dans une vie sainte, parfaitement homme sans doute, mais dans la pureté, dans la sainteté de la nature qu'il a revêtue, à l'égard de laquelle l'ange dira « la sainte chose née dans le monde ». Au milieu de cette vaste sphère marquée par la souillure, par le péché, lui, sans péché, va refaire l'histoire de l'homme. L'Esprit de Dieu change l'ordre des termes lorsqu'il est question de lui dans l'Épître aux Hébreux. N'est-il pas remarquable que nous trouvons qu'il a participé au sang et à la chair? Tandis que lorsque l'apôtre parle de l'homme, quel qu'il soit, c'est la chair et le sang. Sans doute, il y a une raison pour laquelle l'Esprit de Dieu inverse l'énumération. Sans doute, l'Esprit de Dieu veut souligner là aussi ce qu'il est en lui-même. Vrai Dieu et vrai homme tout à la fois. petit exemple dans l'Ancien Testament aide à comprendre la beauté de cette gloire qui est placée devant nous dans l'Épître aux Philippiens et qui brille d'un éclat si particulier, et que nous avons à retenir. Ce qui est requis d'un administrateur, dit Paul, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Si nous laissons en aucune manière, et si peu que ce soit, l'ennemi entamé, porter atteinte, la moindre atteinte qui soit à ce saint mystère, nous sommes des administrateurs convaincus de lâcheté. Car si nous laissons toucher à ce fondement, il n'y a pas de christianisme possible. Sur ce roc, sur ce qu'il est en lui-même, sur la pierre de fondement, l'ennemi, depuis le commencement, depuis Arius, n'a pas manqué d'essayer de porter atteinte à la gloire de sa personne pour ruiner ainsi toute l'œuvre, tout le propos de Dieu, tout l'accomplissement des pensées de Dieu qui repose sur ce qu'il est. Dans Juges 13, nous citons seulement, pour ne pas prendre trop de place, quelques expressions dans cette scène si pleine de beauté, de mystère et de grandeur tout à la fois. Un couple, Manoah et son épouse, image du résidu pieux que Dieu suscite dans tous les temps, est placé en relation avec un homme qui intervient dans leur vie. Et la première chose, c'est qu'ils le considèrent, ils le voient venant à eux, parlant à cette femme, comme un homme. On a dit, forme mystérieuse sous laquelle il apparaît dans la préincarnation qu'il allait revêtir. Et rapidement, lorsque Manoah va rencontrer ce personnage mystérieux qui a parlé à son épouse, dans le verset 11, il lui dit « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ?» Et il dit « C'est moi. » Et au verset 13, il est appelé l'ange de l'Éternel. Et c'est l'ange de l'Éternel qui répond à Manoah avec la majuscule pour que nous saisissions bien qu'il s'agit d'une personne divine apparaissant mystérieusement. Mais pourtant, Manoah l'avait trouvé comme un homme. Déjà, le saint mystère qui apparaît dans cette image pleine de beauté. Ensuite, Manoah parle de nouveau à l'ange de l'Éternel plusieurs fois. Et un peu plus loin, nous lisons que Manoah connut que c'était, au verset 21, que c'était l'ange de l'Éternel. Après tout ce qui s'est passé, après le sacrifice offert à l'autel, et il est monté dans la flamme de l'autel, montrant ainsi qu'un jour, en vertu de la perfection du sacrifice qu'il allait accomplir, il allait monter au ciel, salué par Dieu, souverain sacrificateur, comme homme, le faisant asseoir à sa droite. Il monte dans la flamme de l'autel, et Manoah connaît que c'est l'ange de l'Éternel. Et tout de suite, au verset 22, voyez l'expression, « Nous mourrons, dit-il à sa femme, car nous avons vu Dieu. » De sorte que l'Esprit place devant nous cette personne mystérieuse, d'abord comme l'homme, l'ange de l'Éternel, l'Éternel, et ensuite c'est Dieu lui-même. Sans qu'il y ait la moindre altération, sans qu'il y ait la moindre atteinte portée à celui qui est l'image du Dieu invisible, Dieu dans la plénitude de ce qu'il est en lui-même, étant là vu dans cet homme qui un jour fera dire à Jean, nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique, venant de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Mais celui qui est là, vu comme un homme par Jean, c'est le Verbe éternel, la parole qui était au commencement auprès de Dieu, qui était Dieu, qui était de toute éternité auprès de Dieu.
Et était dans le Christ Jésus, et qui peut et doit être en nous. Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est évidemment la nouvelle nature, c'est le converti, c'est un homme nouveau qui seul peut avoir une pensée qui est celle de Jésus, mais qui se résume dans l'humilité et dans l'obéissance d'un être qui est venu ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce qu'il a offert, c'est une vie sans tâche, préfigurée en effet, comme dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises. Mais la vie sans tâche d'un homme fait à la ressemblance des hommes. Et il s'est abaissé toujours davantage, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est l'abaissement qui est placé devant nous, c'est l'humilité jusque-là. Il n'y a pas à aller plus loin, et nous ne trouvons pas ici, à proprement parler, le côté de la victime expiatoire, mais du saint serviteur de Dieu s'abaissant jusqu'à la mort de la croix. La valeur de la croix, par ailleurs, est inestimable, il n'est pas besoin de le dire. Mais ici, elle représente le dernier terme de la vie d'abaissement et d'obéissance de Christ. N'y aurait-il pas eu des hommes à sauver? La valeur de l'abaissement de Christ demeure elle-même.
On a dit qu'il y avait trois choses qui étaient en contraste, parce que ça, ce sont des pensées qui sont en contraste entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam a été désobéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il était dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le second Adam a été obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix. Le premier Adam a voulu s'élever, a regardé comme un abject, à ravir d'être égal à Dieu. Et comme on l'a dit, cette pensée sera pleinement manifestée par l'Antichrist. Le second Adam, au contraire, il s'est anéanti. Parce que prendre la forme d'homme, c'est s'anéantir. Tout en étant Dieu. Parce qu'il n'avait pas été Dieu, il n'aurait pas pu accomplir l'œuvre. Il était Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme. C'est pourquoi l'Écriture dit bien, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, puis c'est tout. Et troisième chose, on a dit, contraste, c'est que le premier Adam a accusé sa femme, la femme que tu m'as donnée. Tandis que le second Adam a pris sur lui le péché de son épouse. Pourquoi l'apôtre ainsi nous présente la perfection d'une telle personne qui s'est abaissée et qui a été vue dans ce monde? Pour qu'il y ait en nous cette pensée qui était en Christ Jésus. Nous reconnaissons que dans nos vies de ce côté-là, dans cette humilité qui devrait nous caractériser, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs. Et la seule manière de pouvoir ainsi être un peu rempli